Bonjour à tous. J'ai presque envie de dire hi-ha. Merci de votre présentation, Susan. Je veux remercier le Conseil national de m'avoir invité ici pour parler de l'éthanolage. Contrairement à Anne-Marie qui a décidé de parler de choses qu'elle connaît très bien, moi j'ai décidé de parler d'un sujet que je connais moins bien, mais qui est très important et qui est intéressante pour la communauté agricole au Canada. Ce que vous trouverez aujourd'hui dans ma présentation, c'est plusieurs thèmes et vous les avez peut-être entendus hier. Et j'espère que vous allez apprécier l'importance des données et l'importance de faire cet éthanolage et d'établir des lignes de base. Bon, comme suivi aux questions que nous venons d'entendre, Robin Horrell, hier, nous a dit qu'il faut démystifier le mythe que les agriculteurs ne se préoccupent pas de leurs animaux et de la présentation de Catherine Scoville de permettre aux producteurs de parler avec confiance. Posez-vous la question, comment? Comment allons-nous y arriver? Je sais qu'il y a beaucoup de mesures à prendre, mais comment allons-nous de l'avant? Et j'espère que l'étalonnage, ce sera une façon d'y arriver. Lorsqu'on m'a demandé de parler de l'étalonnage, j'ai dit, ah, quelle bonne possibilité de parler de quelque chose de nouveau, de différent, d'enthousiasmant et de nouveauté. Au IVe siècle, nous avons commencé à parler de points de repère d'étalonnage. Secret a découvert pourquoi il y a des cultivateurs qui travaillent de manière à se procurer abondamment par l'agriculture sur tout ce dont ils ont besoin. Et d'autres s'y prennent de façon à ne tirer aucun profit. Et j'aimerais entendre afin de faire ce qui est bon et de ne pas faire ce qui est mauvais. Ce n'était pas aussi nouveau et enthousiasmant que je ne l'aurais cru. Mais je crois qu'il est très important de voir à quel point cette mesure d'étalonnage est primordiale, ce qui se passe ou non en agriculture, comment ça fait partie de vos traditions pour une amélioration continue et pour aller de l'avant. Donc, qu'est-ce que c'est l'étalonnage? L'étalonnage, dans un livre récent sur l'étalonnage en agriculture qui porte plus sur le côté affaires que sur le côté à la ferme. Cela couvre toute activité où les propriétaires exploitants comparent leurs pratiques et leurs rendements avec ceux d'un autre et y apportent des changements afin de les améliorer. Donc, c'est très différent que d'établir des lignes de base. Nous utilisons ce terme, nous allons établir un étalonnage ou un étalon. Nous établissons des lignes de base et ensuite on fait l'analyse comparative. Il y a plusieurs types de catégories d'étalonnage. Il y a tout un des registres là-dessus. Il y a les étalonnages des meilleures pratiques et des étalons d'analyse du rendement. L'un consiste à établir les meilleures pratiques. L'autre est pour établir des étalons pour l'analyse. Alors, où est-ce qu'on met le niveau et comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le distingue? Lorsqu'on parle de l'étalonnage des meilleures pratiques du côté commercial, c'est une approche systématique par laquelle une entreprise évalue ses propres activités et méthodes en les comparant en détail à celles d'une autre entreprise afin d'en tirer une pratique exemplaire et ainsi d'améliorer le rendement. Qu'en est-il? Il s'agit d'une participation de masse au jeu de données, des données avec la comptabilité générale, la production de chiffres pairs, une analyse détaillée des processus à l'intérieur d'une entreprise. L'étalonnage sert d'outil de diagnostic des problèmes et de planification opérationnelle. Lorsqu'on fait un étalonnage, on a un point de repère ou une norme qui nous permet de juger du rendement d'une entreprise. Et des données, on a recueilli beaucoup en agriculture. On a comparé une ferme à l'autre, des visites des fermes, de comprendre comment les gens ont leurs pratiques. Et on parle souvent d'analyse comparative. Disons, prendre un étalon sur la boîterie dans les unicornes. Une approche d'analyse comparative, c'est quelque chose qui n'a pas connu un succès il y a quelques années. Et Anne-Marie essayait de parler de la complexité du projet par grappe et d'identifier les liens. Il y a une analyse comparative qui dit la boîterie sur les unicornes X ne vous aide pas à aller de l'avant pour établir les changements financiers qui doivent être apportés. Est-ce que ça vaut la peine? C'est complexe, ces questions plus complexes. C'est tout simplement une approche de comparaison et ça nous ne fournit pas d'informations sur la façon de mieux gérer ces éléments. En agriculture, c'est un petit peu différent. Moi, je crois que c'est grandement différent que l'approche de la grande entreprise. Les objectifs sont assez semblables, que ce soit pour le bien-être animal ou pour toute votre pratique. Et j'aimerais dire que pour votre organisme, pour votre ferme, l'étalonnage tient compte des questions environnementales, des questions de sécurité. Et nous devons aller de l'avant pour mettre au point des évaluations à la ferme, parce que faire une chose de façon isolée, on ignore beaucoup d'autres choses et tout est interrelié. Ce qui est pas mal différent, c'est que l'étalonnage à la ferme provient surtout des petites entreprises familiales. Ils n'ont peut-être pas tous ces dossiers que vous souhaiteriez. Ils ont peut-être un système de registre. Certains en utilisent, d'autres n'en utilisent pas du tout. Et peut-être certaines ne sont pas prêtes à partager cette information financière. Il y a beaucoup de défis lorsqu'il s'agit d'une petite entreprise familiale. Ils sont encore plus responsables dans des grandes sociétés. Il y a un secteur qui s'occupe de la sécurité des travailleurs et d'autres qui s'occupent de d'autres aspects de l'entreprise. Mais à la ferme familiale, c'est la famille qui est responsable de tout cela et est responsable dans l'immédiat, responsable de l'élevage, de la production des aliments, de la survie. Ils sont inquiets de leur environnement, ils sont inquiets de la sécurité des gens à leur emploi et aussi s'inquiètent des questions de bien-être animal. On peut dire que ça a toujours été le cas, qu'ils ont toujours eu leur propre point de repère et nous l'avons entendu hier lorsque nous avons parlé de l'éthique de l'élevage et certains ont dit que moi je m'occupe des animaux et moi je vais m'occuper de moi. Les animaux sont en santé et produisent bien, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Jeff va nous parler des perceptions du bien-être animal, des sentiments, des comportements dans sa présentation. Historiquement, les gens ont été assez heureux de penser aux aspects de la santé et de la productivité des animaux. Mais je crois que ça a beaucoup changé. Il y a un grand changement, non seulement de passer au fonctionnement, mais de parler aussi des émotions des animaux et de leur comportement naturel. Et c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher si ces approches vont pouvoir trouver crédibilité auprès du public. Si le public s'inquiète beaucoup maintenant des autres éléments, les programmes qui vont être mis au point doivent tenir compte de tout cela. Les détaillants, les consommateurs vont s'attendre à cela. Nous nous avons même du côté scientifique un changement pour ce qui est de la définition classique du bien-être animal. L'état d'un animal qui tente de composer avec son environnement. Et dans la définition de Duncan, on traite des sentiments éprouvés par les animaux. Je sais que Jeff va parler de la définition de l'OIE, mais lorsqu'on fait allusion à l'état de l'animal, et maintenant on parle de la notion de bien-être, ça crée tout un changement pour ce qui est de ce que nous allons évaluer, de ce que nous allons mesurer. Si on évalue le bien-être, il faut évaluer l'animal. Pas uniquement l'animal, il faut évaluer non seulement l'état de l'animal, mais d'autres éléments. Et c'est Jeff qui va en traiter. Alors, quoi mesurer? Les normes d'ingénierie, des normes axées ou des mesures axées sur les animaux, quelles sont les variables qui doivent faire partie du procédure d'évaluation pour bien évaluer le bien-être animal et cela qui fonctionne bien pour le public. L'étalonnage du bien-être, ça commence. C'est au tout début. Catherine, hier, a dit que les organisations vont de l'avant, font des progrès pour ce qui est de mettre au point des mesures d'évaluation à la ferme. Pour aujourd'hui, je vous dis qu'il y a trois grands types d'activités d'étalonnage. Il y en a probablement davantage. D'établir des étalons pour ce qui se passe dans l'industrie. Deuxièmement, une analyse comparative à la ferme avec la rétroaction aux producteurs. Et troisièmement, les évaluations, les audits selon des normes de bien-être animal pour toutes sortes de raisons. Lorsqu'il s'agit d'établir des étalons pour ce qui se passe dans l'industrie, vous en avez entendu parler hier et aussi ce matin chez Anne-Marie, il y a la prévalence de certaines maladies comme la boiterie. Nous avons des projets en Alberta. Nous avons une étudiante de doctorat qui travaille sur le transport et elle regarde ce qui se passe. Combien d'animaux par camion, les distances parcourues, les conditions dans les camions. Elle essaye de trouver ces bases de référence. Et à partir de cette base de référence, on doit pouvoir servir à regarder les moyens numériques ou comment on va établir ces normes. Mais il y a quand même des restrictions à cette approche. Même si l'information est importante, elle est souvent très limitée et axée sur des aspects particuliers. Par la boiterie des unicornes, la distance parcourue par le camion, ça n'inclut pas souvent cette analyse économique qui aide les producteurs à décider comment ils pourront régler ces problèmes ou comment est-ce qu'ils devraient procéder pour solutionner ces problèmes. Donc, c'est important de mettre au point ces liens entre toutes ces variables pour comprendre quelle est la stratégie qui nous permettra de régler le problème, quelle est la façon économique la plus efficace de le régler. Et chaque producteur, il y aura des différences. La même solution ne va pas fonctionner de la même façon. Les fermes ne sont pas toutes pareilles. Alors, les données de base sont établies maintenant pour établir des étalons et des objectifs. Ce n'est pas clair pour ce qui est... Nous commençons tout simplement à utiliser ces étalons. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, d'abord et avant tout, on fait cette étude de base, on découvre que 30 % de toutes les unicornes à la ferme sont boîtes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est acceptable? Ou est-ce qu'on devrait établir cette moyenne? Si nous avons quelques fermes qui sont à 10 % est-ce que l'étalon doit être à 10 % Comment prenons-nous ces décisions? Peut-être 30 % c'est le meilleur chiffre qu'on peut atteindre à cause d'autres facteurs dans cette industrie des unicornes. Donc, il faut travailler davantage là-dessus. Et vous avez vu dans la présentation d'Anne-Marie qu'il y a des véritables efforts pour aller trouver de l'information pour établir ces étalons. La présentation d'Anne-Marie a traité de l'analyse comparative et de la rétroaction aux producteurs de fournir de l'information sur la façon dont ils se comparent à leurs pairs est extrêmement important. J'ai quelques projets. Anne-Marie les a déjà mentionnés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je dois dire, c'est que c'est quelque chose qui est reconnu dans toute la documentation qui existe. Un livre paru en 1994, ils ont dit que cette rétroaction aux producteurs de fournir la possibilité d'apprendre, de donner l'information aux producteurs, fonctionne très, très bien. Et cela les motive à apporter des changements. Les producteurs ne veulent pas se trouver à un niveau inférieur que les autres. Les entreprises ne veulent pas être en bas de l'échelle. On peut offrir une vision pour ce que pourrait être une ferme. Si vous savez que la plupart des fermes chez vous se retrouvent à, disons, 5%, 10% et que vous n'êtes pas à ce niveau, vous pouvez réfléchir à la façon d'y arriver, vous pouvez réfléchir à la façon dont vous pouvez accomplir plein de choses. On peut identifier les meilleures pratiques pour la façon de gérer les changements et vous créer une base de référence ou une unité de comparaison. L'étalonnage, d'abord et avant tout, est un processus d'apprentissage. Et j'aime ce que Catherine a dit. Il s'agit d'un outil d'éducation. Et ces évaluations nous permettent de les utiliser. C'est un processus qui permet aux personnes engagées dans le processus de comparer leur rendement afin de déterminer leurs forces et leurs faiblesses respectives et de s'en servir pour s'auto-améliorer ou s'auto-réglementer. Et nous avons l'étalonnage pour les évaluations et les audits. Pour les évaluations, ça peut vouloir dire obtenir des accréditations. Il y a différents programmes, différents objectifs. Fraser, en 2006, a parlé de ces normes, des types de normes pour la réglementation, pour les accords intergouvernementaux, pour les programmes d'assurance de la qualité, pour les codes et lignes directrices non obligatoires sur le bien-être et pour le programme de différenciation et d'étiquetage des produits. Toute une liste de raisons pour lesquelles on utilise et on applique ces normes. La plupart de ces normes exigent une forme d'évaluation ou d'audit pour démontrer que vous avez entrepris le programme. Les évaluations et les audits ne sont pas conçus pour être des étalons ni même pour établir une base de référence. Dans le monde de la vérification, le vérificateur doit arriver, passer à travers la procédure avec un formulaire en main, donner un pointage et redonner le score à la gestion. L'interaction, la possibilité d'éducation dans un tel système n'est pas vraiment encouragée parce qu'on se retrouve dans un système où le vérificateur est peut-être influencé par l'interaction. Donc, cela devient toute une autre question. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser de cette façon. Ça dépend comment le programme est établi et qu'est-ce que la gestion fait avec cette information. Un exemple d'un système, lorsque j'étais aux États-Unis, et je travaille encore avec un programme aux États-Unis dans le secteur porcin, le PQA+, dans cette accréditation, il faut avoir une évaluation à la ferme. Une personne formée va à la ferme, fait l'évaluation, s'assoit avec le producteur, examine l'évaluation et trouve un plan sur la façon de pallier à toute préoccupation. Et la ferme reçoit une identification du site. Les résultats sont entreposés, je ne sais pas si c'est à la commission du port ou dans un autre organisme. Mais une fois que cette ferme a été évaluée, que le site a reçu son identification, ça va dans une réserve où il peut y avoir une vérification par un tiers une tierce partie. L'évaluateur va retourner voir la ferme, voir si le programme a été efficace et on parle des résultats. Donc, alors, pour vous parler de ce programme PQA+, parce que vous avez cette évaluation, c'est une possibilité d'éducation. Ce n'est pas tout simplement de réussir ou d'échouer, mais on parle de ces questions. Et c'est comment ça devient plutôt un étalonnage, parce que lorsqu'il y a cette vérification au hasard pour comparer où ils étaient, pour voir où ils sont rendus. Cette vérification d'un tiers est essentielle. Il faut passer à travers plusieurs étapes avant d'y arriver, mais je crois que la plupart des organismes à qui je parle recommandent qu'on mette au point une culture d'évaluation interne avant de passer aux évaluations d'un tiers parti, plutôt que ça soit imposé de l'extérieur, plutôt que ça soit un genre de surveillance policière. Si on travaille avec les évaluations internes, on met au point un système dans nos organismes sur les évaluations du bien-être et l'importance pour l'entreprise. La commission du port aime aussi dire que de participer à des évaluations de bien-être animal et ces vérifications de tiers parties, ce n'est pas uniquement de parler de conformité, mais de voir à quel point leur système fonctionne, voir si leur matériel est utilisé, si leur programme est vraiment efficace par rapport à leurs efforts.
Well, Temple Grandin.
Temple Grandin, plusieurs citations. Les gens gèrent les choses qu'ils mesurent, par exemple. En mesurant, les gens ont aussi un étalon qui leur permet de voir si leur rendement s'améliore. C'est intérieur. Si on ne mesure pas, on ne trouve pas les problèmes. Pourquoi étalonner? Pour ce n'est les motifs de préoccupation qu'il faudrait corriger à la ferme. Il est impossible de résoudre un problème dont on ignore l'existence au comité des biens quand on parle des résultats de QA et des évaluations et en parlant avec les agriculteurs qui font partie du comité. On apprend. On va entendre qu'on. Je ne savais jamais qu'on faisait telle chose à la ferme. Je pensais que je m'en étais occupé il y a 10 ans, mais voilà, ça arrive encore. Des commentaires de ce genre. Les gens reviennent à leurs anciennes habitudes. Quelquefois, les administrateurs ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans leur propre bâtisse. Alors, ils ne savent pas quels sont les résultats de l'évaluation. On a entendu pour inspirer confiance aux commissaires, aux détaillants, aux autres intéressés. Vous avez, moi je le dis à tout bout de champ, c'est pas c'est plus un monde où on veut entendre parler, on veut qu'on démontre les faits. Voilà le message. Vous devez comprendre comment démontrer les choses. C'est pas parce que les gens veuillent pas vous faire confiance, mais en réalité, les gens ont toujours besoin de documentation pour faire confiance maintenant. Et il semble qu'il y ait énormément de confiance pour l'industrie, les industries de l'agriculture, mais ça va disparaître au moins qu'on ait des programmes qui démontrent qu'on fait les choses correctement. On a entendu parler de la protection de l'accès aux marchés internationaux. Alors, pourquoi étaliner pour obtenir des données essentielles qu'on peut utiliser de plusieurs façons? Je vais vous donner un exemple qui provient de l'Écosse aussi. On le fait aussi pour évaluer des programmes de vulgarisation. Les gens veulent comprendre diverses attitudes et perspectives du bien-être animal. J'ai vu une étude sur l'étalonnage dans la chaîne de la volaille, mais c'est beaucoup plus orienté vers l'aspect commercial et non pas vers le bien-être des animaux. Il y a une étude en Australie des attitudes des gens du bovin de boucherie, et ça demande toute une fourchette de, d'opinions dans un groupe ou dans une filière de l'industrie. Des gens dans le domaine du bœuf avaient les mêmes attitudes par rapport, les mêmes valeurs par rapport au bien-être des animaux. Mais il y avait aussi beaucoup de différences. On parle souvent de, des différences, mais même au sein de nos propres groupes, on voit des différences importantes sur ce qui est significatif ou ce qui est le plus significatif par rapport au bien-être des animaux. Et enfin, une des choses les plus importantes, c'est de démontrer qu'il y a une amélioration continue. L'Écosse a son propre système de surveillance et d'étalonnage pour examiner la santé et le bien-être et pour essayer de, d'en arriver au potentiel. Aussi, on c'est pour suivre les améliorations de la santé et du bien-être. C'est un système qui fonctionne d'évaluation dans toute l'Écosse. On peut utiliser les signes pour voir il y aurait des solutions et évite une éclosion de maladies. Sinon, on est en train de essayer de réagir face à les crises au lieu de prévoir les problèmes qui peuvent arriver. Le programme Beef Quality Assurance des États-Unis, BQA, a des carnets, des livres, des renseignements pour l'étalonnage, pour aider les engraisseurs de bovins et les éleveurs naissants. C'est beaucoup plus pour la production que pour le bien-être des animaux, mais c'est une première étape importante afin de cerner les problèmes de gestion qu'on pourrait connaître. Il y a des groupes qui essaient de créer des bases de référence pour la manipulation du bétail. On essaie de comprendre comment ces personnes, quelles pratiques ces personnes ont au lieu de savoir comment vont les animaux. Coleman dit qu'au lieu de regarder la façon dont on travaille avec les animaux, si on ne le fait pas, on ne comprend pas. Il y a une partie de ce bien-être des animaux qu'on n'est pas en train d'observer. Un étalonnage qui se concentre sur l'aspect apprentissage peut favoriser le développement d'une culture d'amélioration continue. Si on met l'accent sur l'apprentissage, il y a l'occasion de travailler envers une amélioration continue. S'il n'y a pas de rédirection, s'il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de raison pour laquelle on devrait modifier les choses. L'amélioration continue, on en entend parler de toujours quand on parle de, avec les entreprises et les organisations, de, quand on entend parler de, des audits. Par exemple, Monodon, dans son travail, dit que nous souscrivons à l'amélioration continue du bien-être des animaux dans notre chaîne logistique. C'est un des messages fondamentaux par rapport au programme de bien-être des animaux. Ils ont des données à leur site web qui démontrent l'amélioration, le nombre d'abattoirs où on fait du suivi, combien d'abattoirs ont des notes de passage, qu'est-ce qu'ils démontrent, ce qu'ils font et ce qu'ils font pour s'améliorer. C'est, maintenant, il y a des données du travail de Temple Grandin sur l'audit et sur la façon dont les abattoirs et les usines ont changé au cours des premières années de, après l'introduction d'un audit. Alors, c'est plus facile de dire qu'on fait de l'amélioration continue. Voilà la situation et ce, voilà l'orientation que nous avons. Et donne des, ça donne des données et une crédibilité. C'est la même chose dans une comparaison sur la vocalisation des bovins. On peut démontrer qu'on améliore. Ce n'est pas seulement qu'on veut une note de réussite, mais on veut voir des mesures concrètes. Il y a Il y a une entreprise qui s'appelle Unilever. Est-ce que quelqu'un le connaît? Il y a plusieurs marques dont cette entreprise est responsable et ils ont un code de responsabilité agriculturelle et ils ont toute cette information sur le site web. Je sais que vous ne pouvez pas le lire à partir de vos chaises, mais il y a plusieurs domaines de bien-être des animaux, l'amélioration continue, on adresse en importance les choses qu'on devrait et ne devrait pas mesurer et on adresse l'importance de l'amélioration continue. Ils sont engagés à travailler dans ce domaine, que les fournisseurs devraient faire la sensibilisation par, ils devraient créer des stimulateurs pour les agriculteurs. Nous demanderons des changements que dans les secteurs où les normes en place sont très éloignées de notre code, ce code s'applique à tous les fournisseurs de marchandises agricoles d'Unilever, aux agriculteurs qui les produisent et aux entrepreneurs qui travaillent sur les fermes. Nous tenons les fournisseurs responsables de la mise en œuvre du code, mais toutefois un grand nombre de bonnes pratiques doivent être appliquées par les agriculteurs et non par les fournisseurs. Ils ne savent pas mesurer, quand il s'agit de mesurer les améliorations continues, on dit à élaborer plus tard, mais ils voudraient plutôt que l'industrie le fasse au lieu d'être obligés de le faire eux-mêmes. Les fournisseurs doivent se sensibiliser et partager des connaissances pour que l'amélioration globale continue et essentielle à un développement durable. Les améliorations spécifiques du bien-être animal dépendent de la connaissance des problèmes présents et de leur résolution. Encore une fois, les systèmes de surveillance et d'étalonnage devraient être élaborés pour appuyer l'amélioration globale continue. Et ils fournissent des exemples pour les entreprises et les producteurs qui s'intéressent à leur travail. Mais encore une fois, le code, la responsabilité finale est celle des fournisseurs et des agriculteurs. Alors, en guise de conclusion, l'établissement d'une base de référence et l'étalonnage sont importants pour la durabilité de l'agriculture. Je pense que ça va être de plus en plus important de démontrer les données, mais ça fait partie de la tradition agricole. Et on voit que ça a disparu dernièrement, mais au cours des derniers mois, on travaille avec les agriculteurs, les vétérinaires travaillent dans le programme de santé. C'est une façon d'étalonner. Et ça permet aux producteurs de s'attribuer le mérite des bonnes choses qu'ils font. Souvent, on va dire, après que ça va beaucoup mieux que j'aurais pensé, je dois arranger deux petites choses. Oh, j'ai rien à changer. Il y a beaucoup de surprises. On s'occupe des animaux et les animaux s'occupent de vous. Il n'y a pas beaucoup de changements à faire. Il s'agit de démontrer, de ramasser les données pour les choses positives qu'on fait déjà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, j'ai le temps de répondre à une question. Merci, David Trice de Agriculture Canada. J'ai une question à poser sur les personnes qui seraient la cible de cet étalonnage. Vous avez mentionné dans votre Robin Orell, dans votre premier commentaire, les producteurs eux-mêmes travaillent bien et veulent pouvoir le démontrer. Mais les producteurs peuvent s'approprier de ce processus quand ils sont les propriétaires, mais il y en a beaucoup qui sont employés. Certains échecs que nous avons vus, qu'on voit même à YouTube et qui ne sont pas très beaux et qui font envoyer un tas de lettres au ministre et on doit s'en occuper. Et souvent, c'est lié aux employés qui n'ont pas ce sens de l'appropriation. Alors, l'étalonnage, ça s'applique d'une autre façon aux employés. La réponse, ma première réponse serait qu'il n'y a pas énormément de différence. Ce dont on parle, c'est le genre de programme qui est élaboré et la façon dont on met ça en œuvre. Il y a des entreprises qui ont des programmes d'évaluation et un élément clé, c'est la formation. Par exemple, les abattoirs et les programmes d'évaluation pour McDonald's et les autres, on a un programme de formation individuelle et les travailleurs sont responsables de suivre la formation. J'ai travaillé en Indiana avec Maple Leaf Duck, c'est le producteur le plus important de canards, et c'est clair dans le contrat que si on ne suit pas les lignes directrices, on peut faire résilier le contrat. Et vous pouvez recevoir des canards seulement si vous vous occupez du problème. Et on dit, à propos, on va vous donner une certaine formation sur la façon de faire au lieu de séparer les propriétaires et les employés. Il faut comprendre que ça fait partie d'une responsabilité où il y a des responsabilités et des actions qui peuvent être différentes selon la personne, mais on doit assurer qu'il y a des attentes claires et que la formation peut exister. Est-ce que ça répond un peu à votre question? La valeur de l'étalonnage, c'est inaudible, il n'utilise pas le micro. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose que Cargill fait avec l'audit par vidéo. Par la vidéo, ils peuvent comparer leurs mesures, ils peuvent comprendre ce qui se passe, combien de problèmes il y a eu un jour. Ils font des comparaisons entre une usine et une autre. Ils font des comparaisons à l'intérieur d'une usine aussi. Et normalement, les nouveaux employés, normalement, vont travailler dans le quart de la nuit. Et ceux qui sont plus d'ancienneté travaillent le jour. Alors, ils ont fait leurs évaluations et leurs audits et ils ont démontré que les nouveaux employés avaient de meilleures notes que les plus anciens qui travaillaient le jour. Et on a fait savoir dans l'usine. Et après un bout de temps, les employés de jour qui se pensaient meilleurs se sont améliorés et on a établi un genre de concurrence au sein de l'usine. Alors, quand on donne des renseignements aux travailleurs, une motivation pour s'améliorer, les données peuvent être une source de motivation. Excellente. Je me demande pourquoi. On peut prendre quelques questions de plus. Le projet a bien fonctionné. Un projet, Anne-Marie l'a mentionné par rapport à l'étalonnage. Nous travaillons sur un projet d'étalonnage avec les producteurs laitiers sur leur conformité au code de bien-être et leur attitude envers ces codes. Ron en a parlé un peu hier. Je ne veux pas terminer, mais on est en train de commencer un projet. Je devrais avoir mon chapeau carbu, mais on vient d'amorcer un projet au Calgary Stampede. Et c'est étonnant. Je viens de parler de ce programme. On a élaboré depuis 2 ans des codes de pratique pour les animaux dans les installations, des codes pour les animaux à la ferme, au ranch et aussi les animaux qui sont dans les salons. Et ils ont fait des audits de tiers pour comprendre leurs améliorations. C'est intéressant de voir comment les renseignements peuvent être tellement puissants, tellement positifs. Et on se rend compte que les gens font les choses correctement et voici les preuves. Alors, il ne faut pas seulement en parler, il faut le démontrer. Merci beaucoup à tous et à toutes.